Alors, ce n'est pas à proprement parler une conférence que je vais apporter, hein, c'est une introduction. C'est une introduction à l'échange que nous aurons après. Il y a peut-être des questions que vous posez et que je ne vais pas aborder là. C'est impossible de tout aborder sur un sujet comme celui-là en 25 minutes. Je vais juste essayer de tracer quelques pistes en tant que croyant, en tant que lecteur de la Bible, en tant qu'observateur de ce monde aussi, comme vous, n'est-ce pas? Et puis j'espère qu'à partir de ces pistes, eh bien, on aura la possibilité d'avoir un échange et que vous pourrez poser vos questions. Je ne garantis pas que je pourrai répondre à toutes vos questions, mais je vous dirai ce que j'ai dans mon cœur. Voilà. Le premier point que je vous propose d'examiner ensemble, je l'ai appelé l'ambivalence du regard. Voilà. Quand on aborde un sujet difficile, hein, comme celui-là, c'est important de commencer par un constat commun qui prouve qu'on n'est pas sur deux planètes différentes, mais qu'on habite la même planète. Et ce constat commun, à mes yeux, c'est que nous vivons dans un monde qui est à la fois magnifique et terrible. Je ne sais pas si vous êtes dit ça, mais moi je me le suis dit souvent, je me le dis presque tous les jours. Et je pense que c'est quelque chose que beaucoup de personnes peuvent se dire également. Ce monde est à la fois magnifique, hein, et quelquefois il nous fait bondir de joie, on a envie de chanter, et quelquefois il est tellement terrible qu'on n'a pas envie de se lever le matin, on se dit mais je préfère rester dans mon lit quoi. voilà. Ce qui est curieux, c'est que selon les circonstances, eh bien on va se dire mais ce monde est vraiment, c'est beau, la vie est belle. Et dans d'autres circonstances, on va dire, la vie est tellement dure qu'on se demande comment c'est possible, comment on va tenir jusqu'au bout, est-ce qu'on va arriver jusqu'au bout du voyage, comment tenir même jusqu'au soir dans certains cas. Il m'est arrivé des périodes de ma vie où je me suis dit, j'arriverai pas au bout de la rue, tellement mes forces me manquaient, tellement j'étais accablé par ce que je vivais. Ce sentiment, ces deux sentiments qu'on peut avoir, peuvent donc être, moi je pense que souvent ils se côtoient. On a à la fois le sentiment que c'est beau et que c'est difficile. Voilà. Mais quelquefois, ces sentiments peuvent être très contrastés. À ce point que quelqu'un qui vit un moment heureux, de rencontre, de réussite, de contemplation, peut être si persuadé que la vie est magnifique, il est incapable de comprendre quelqu'un qui est dans la souffrance ou dans l'abattement. Il ne peut plus le comprendre. Il se dit, mais pourquoi celui-là, il se plaint, qu'est-ce qu'il a à gémir, pourquoi il n'est pas heureux comme moi? Et inversement, quelqu'un qui est accablé, quelqu'un qui est dans l'échec, dans la déception, dans la contrariété, dans des soucis importants, qui ne voit pas l'issue, il peut se dire, mais comment des gens peuvent se réjouir dans ce monde? Et ça fait des personnes qui ne se comprennent plus, qui sont comme sur deux planètes différentes. Et la même personne peut quelquefois, dans un espace assez court, vivre un moment de très grande joie et un moment de très grande souffrance. Les moments peuvent quelquefois se succéder très rapidement. Je pense à Van Gogh, hein, le célèbre peintre qui s'est suicidé, et qui avait dit « La mort est terrible, mais la vie est plus terrible encore. » C'est une parole grave, hein. Et j'étais très frappé aussi, parce que cette parole a été dite également par une spéléologue, il y a une dizaine d'années, ou peut-être un peu plus, Véronique Le Guen. Je ne sais pas si quelques-uns se rappellent de cela. Elle avait tenté l'expérience de rester 100 jours dans une grotte, sans repère de temps et sans lumière. Voilà, donc hors de l'espace normal de vie. Voilà. Donc, une expérience, on pourrait dire, un peu scientifique. Hein. Mais vous voyez, à mon avis, elle a franchi une limite. Hein. Elle est allée au-delà du cadre dans lequel l'homme est fait pour vivre. Hein. Et quand elle est sortie, elle était tellement troublée qu'un jour, elle a prononcé cette parole-là aussi. La mort est terrible, mais la vie est plus terrible encore. Et elle a mis fin à ses jours. Ce qui veut dire que dans certains cas, la conscience du mal, de la souffrance, de l'absurde, de la mort, des ténèbres est tellement profond, envahit tellement tout l'espace qu'il n'y a même plus de place pour un peu de lumière, un peu de joie, un peu d'espérance. Voilà. Ce que je décris là semble un peu exceptionnel, Mais quand vous regardez les statistiques et le nombre de suicides, je ne vais pas citer des chiffres ce soir, hein, je n'ai pas fait de calcul comme cela, mais le nombre de suicides est quand même très très alarmant. C'est une des premières causes de mort en France, quand même, c'est pas rien. C'est pas... Voilà. Donc, voilà. Sur quoi je pose mon regard? Est-ce que je choisis de voir les choses joyeuses, parce qu'il faut bien vivre, hein, comme on dit, il faut manger, il faut boire, il faut dormir, on va bien faire un peu la fête, on va prendre du bon temps, on va profiter, parce que c'est une question de survie un petit peu, ou bien est-ce que je choisis de regarder les choses tristes, hein, parce qu'elles sont là aussi, finalement, comment, ça c'est une question que je portais dans mon cœur quand j'avais 16 ans, 17 ans, qu'est-ce que je choisis de regarder? Voilà. Puisque les deux réalités existent, est-ce qu'il y a une raison qui fait que je vais plutôt regarder les choses joyeuses, c'est meilleur pour la santé, ou bien est-ce que je choisis de regarder les choses tristes, ou je les éloigne de moi, parce qu'il faut bien avancer, il faut bien vivre, mais il faut bien vivre, est-ce que c'est une bonne raison? C'est une raison pragmatique, c'est une raison, on pourrait dire, qui s'impose, mais est-ce qu'elle est philosophiquement honnête, cette raison-là? Voilà. C'est une question, je pense, qui n'est pas légère. Cette ambivalence des sentiments, elle se remarque très fort dans ce que vivent des personnes en fin de vie, donc j'en suis témoin assez souvent, qui à la fois réclament de mourir et à la fois luttent pour vivre encore un jour, encore une heure. Ça c'est très étonnant, hein. Donc des personnes très âgées, très délabrées, dans la vie desquelles il n'y a plus de place pour la joie et pour le plaisir, que de la souffrance, que de l'attente, pas d'issue, vous voyez, pas de projet, voilà. Et qui disent, mais qu'est-ce que je fais encore là? Pourquoi? Je voudrais mourir. Et bien ces personnes, elles réclament à boire, elles réclament à manger, et quand elles ont mal, elles réclament qu'on les soulage, et donc elles s'accrochent encore à la vie, vous voyez. Il y a cette force de vie, et en même temps, il y a cette lassitude quelquefois qui se mêle, qui se mélange, et les soignants appellent ça l'ambivalence du regard. Voilà. Ça nous montre, je pense, que notre regard est très limité, vous voyez. Je ne sais pas ce que pense le philosophe de cela, mais notre regard est très conditionné par les conditions que nous vivons. S'il fait soleil, on ne raisonne pas tout à fait comme quand il pleut. Et quand on a mal aux dents ou quand on a mal au ventre, hein, on ne raisonne pas tout à fait comme quand on est en pleine forme. Ça veut dire, je trouve que ça nous invite à beaucoup d'humilité, n'est-ce pas? Et ça nous invite aussi à quelque chose qui est de l'ordre du recueillement. C'est-à-dire pas se précipiter pour lancer une théorie, ouais, Dieu existe, c'est super, Dieu n'existe pas, c'est pas possible, voilà. Parce qu'on est conditionné par ce qu'on vit, voilà. Un mal de dents change mon raisonnement complètement. Et donc, voilà, on en est là, si vous voulez, hein. Et cette dimension de recueillement, je pense qu'elle était affirmée autrefois, quand à l'approche des hôpitaux, on voyait ce panneau, silence hôpital. Pourquoi c'était marqué silence hôpital? Ben, parce qu'il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui vont mourir. Voilà. Aujourd'hui, on ne le voit plus. Et aujourd'hui, dans chaque chambre, il y a une télé. Vous voyez ce que je veux dire? Pour le recueillement, ce n'est pas le top. Le deuxième point que je vous propose d'examiner en quelques instants, c'est ce que j'appelle le réalisme biblique. Je crois évidemment que si la Bible m'a touché et m'a convaincu, c'est parce que Dieu a touché mon cœur pour que cette parole s'impose à moi, en quelque sorte. Mais ça n'empêche pas la réflexion personnelle, évidemment. Et un des aspects qui m'a touché, je me souviens, quand j'ai lu la Bible pour la première fois, c'est son réalisme. C'est-à-dire la Bible décrit la réalité sans l'enjoliver. Et même beaucoup de gens disent, mais la Bible, qu'est-ce que c'est ce livre avec tant de choses comme ça, des guerres et des meurtres et des adultères. Et des... C'est ça la parole de Dieu, c'est ça le monde dans lequel Dieu est venu. Et la Bible décrit cette réalité-là. Voilà. Elle n'enjolive pas. Ce n'est pas une belle histoire. Enfin, c'est une belle histoire, mais dans un contexte qui n'est pas spécialement beau, qui est celui que nous vivons, aujourd'hui. Et donc, dans la Bible, on voit ce contraste que j'évoquais tout à l'heure entre des choses magnifiques et des choses plus que déplaisantes. On pourrait citer 1000 exemples de situations absurdes, désopilantes. Voilà. Et je voudrais retenir un exemple parmi beaucoup d'autres. Cet exemple biblique, pas de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, des Évangiles, c'est celui-ci, dans le contexte de la naissance de Jésus, rapporté par les quatre Évangiles, dans ce contexte qui nous parle du chant des anges, la joie des bergers, la joie des mages, l'étonnement des parents de Jésus, voilà. Dans ce contexte-là, il y a un roi, Hérode, un roi que les historiens mentionnent, n'est-ce pas, le roi Hérode, qui apprend qu'un roi vient de naître dans sa contrée, qui se renseigne auprès des docteurs de la loi, auprès des religieux de son époque, qui apprend qu'effectivement, une prophétie a été donnée il y a longtemps, qui disait que le Messie, le roi des Juifs, allait naître là. Qu'est-ce qu'il fait ce roi? Il donne l'ordre que tous les enfants de moins de 2 ans de la contrée soient tués. C'est la Bible, il le dit comme ça. C'est le contexte de Noël, si vous voulez. Le mot Noël n'est pas dans la Bible, hein. Mais la naissance de Jésus est racontée. Et je lis un verset, hein, qui m'émeut toujours quand je le lis chaque fois. Hein. C'est dans l'évangile de Matthieu, chapitre 2. Voilà. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et des grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. C'est dans la Bible. On dira, mais c'est ça la parole de Dieu? C'est ça le monde dans lequel Dieu intervient. C'est tout sauf un monde idéal. C'est tout sauf une vie harmonieuse. C'est tout sauf des hommes paisibles et gentils. Voilà. Et ce réalisme de la Bible, quand elle décrit ces réalités, est tellement frappant que quand elle dit, voilà, Dieu aime les hommes et accomplit cela, ça force à l'écouter aussi. Si elle est vraie quand elle décrit des situations comme celle-là, on peut dire, voilà, elle est vraie aussi quand elle dit « Dieu se penche sur ce monde, non pas pour le détruire, mais pour lui tendre la main. » Le réalisme biblique. La question que je pose maintenant est la suivante. De quel mal parle-t-on? Voilà, parce que l'intitulé, c'est « Pourquoi le mal existe ?» Et moi, je pose cette question maintenant. De quel mal parle-t-on? Cette question s'est vraiment imposée à moi quand je réfléchis à ce sujet. Et la mention du massacre des innocents, c'est comme ça que dans l'histoire des arts, on a appelé la mise à mort de ces petits-enfants dans la région de Bethléem, le massacre des innocents. C'est comme ça que les historiens de l'art appellent cet événement. Cet événement m'a conduit à poser cette question. Dans ce récit, qu'est-ce qui est mal? Que des enfants aient été tués? Rien demandé, rien fait de mal. Voilà. Que des mères aient été privées de leurs enfants, poussaient des grands cris. Les pères aussi, ils n'ont peut-être pas poussé des grands cris, mais enfin, ils ont pleuré à l'intérieur, évidemment. On peut penser à Rachel aussi, qui refuse d'être consolée. Peut-être c'est mal de refuser d'être consolée. Mais enfin, bon, voilà, on n'est pas à sa place. Hein. Le texte n'occulte pas cela. Le texte le dit comme ça, crûment, directement, avec des mots très forts. Mais est-ce tout? Non, c'est pas tout. Ce récit que j'ai relaté tout à l'heure nous parle d'un autre mal dans le cœur de ce roi, un autre mal qui pousse ce roi à donner un ordre inique, de tuer tous les enfants de moins de 2 ans. L'orgueil, le désir de puissance, la cruauté, mais par-dessus tout, l'opposition à Dieu. Parce qu'il sait que celui qui vient de naître, les docteurs de la loi le lui ont dit, c'est celui que Dieu a envoyé. Voilà. Et donc, il a, on pourrait dire, un compte à régler avec Dieu. Comme Pharaon, vous savez, en Égypte, hein, quand Moïse dit à Pharaon, laisse partir mon peuple. Let my people go. Qui est ton Dieu pour que je lui obéisse? Voilà. C'est qui commande? Voilà. Bien, on sent chez Hérode ce défi-là. Voilà. Qui est Dieu pour que je laisse faire quelque chose comme cela? Et donc, c'est l'opposition à Dieu. Voilà. Le roi Hérode, je cite Matthieu chapitre 2, versets 3 et 4. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, tout Jérusalem avec lui. Il assembla les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Et donc, voilà, il y a le mal des enfants qui meurent, il y a le mal des mamans, il y a le mal des papas, il y a le mal d'Hérode, hein, qui fait tuer ses enfants, qui est sans pitié pour les mamans, et qui s'oppose à Dieu, qui n'admet pas que Dieu prenne sa place, qui n'admet pas que Dieu mette un pied sur cette terre, hein, qui se croit le maître de tout, qui veut diriger, qui veut régenter. Et il y a là un mal aussi, N'est-ce pas? Il y a là un mal aussi. Alors, qu'est-ce qu'on va retenir dans cette palette de mots, n'est-ce pas? Eh bien, la Bible nous décrit donc ces maux subis, ce mal subi, profondément, violemment, injustement, et ce mal accompli. La Bible décrit les deux. Mais quelle est la pointe du récit? À mes yeux, la pointe du récit, c'est le mal qu'accomplit Hérode. Voilà comment je le comprends. La Bible ne passe pas sous silence la douleur des enfants, la douleur des mamans, des papas, mais la pointe du récit, quelque part, n'est-ce pas, c'est le mal d'Hérode, hein, qui s'oppose à Dieu par esprit de rébellion, par esprit de par amour du pouvoir, par orgueil, et qui ne veut pas laisser Dieu accomplir son œuvre. Voilà. La pointe du mal, alors ça, c'est, je le crois vraiment, hein, ce n'est pas le mal subi, c'est le mal accompli. Ce n'est pas le mal que je subis, même si le mal que je subis est très grave. La pointe, c'est le mal que je fais. Alors voilà, ça c'est comme une sorte de conversion de la pensée que j'introduis là. Et je ne le fais pas par jeu, hein, je le fais par... Je crois dans la logique de la Bible. Et je le fais pour mettre en avant notre responsabilité d'hommes et de femmes sur cette terre, hein, aujourd'hui. Donc c'est le point qui suit maintenant que j'aborde, hein, je l'ai appelé changement d'optique, on pourrait dire conversion du regard. Parce qu'on peut dire, voilà, Hérode était méchant, c'est facile de dire Hérode est méchant, oui. Hitler était méchant, oh qui était méchant ce Hitler. Mais quand on voit des films, hein, quand on voit des films, on voit que ces nazis, ils avaient des petits-enfants, ils écoutaient de la musique, ils caressaient leurs chiens, ils aimaient leurs femmes, ils étaient comme les autres. C'est troublant, hein. Il y a des gens qui étaient troublés par cela. On dit, mais c'est des monstres. C'était pas forcément des monstres quand ils avaient une vie comme tous les autres. Ils n'étaient pas tellement différents des autres. Simplement, les circonstances et certains choix qu'ils ont faits, certaines ambitions, les ont conduits dans ces situations extraordinaires. Mais est-ce que leur cœur était foncièrement différent du cœur de chaque homme? C'est pas si sûr. C'est pas si sûr. En tout cas, la Bible permet de poser la question comme cela. Et donc, au travers d'Hérode, par exemple, qui ne laisse pas de place pour Dieu dans sa vie et dans son royaume, qui dit « je suis le seul maître ici-bas », eh bien, dans le personnage d'Hérode, on peut reconnaître le genre humain dans son entier. Le genre humain dans son entier. La Bible dit « il n'y a pas de juste, pas même un seul. Voilà. » Tous sont révoltés. Tous sont... aveuglés, tous sont éloignés de Dieu. Voilà. La Bible dit cela. C'est quelque sorte le regard pessimiste de la Bible, alors, réaliste et pessimiste, hein, voyez. Et c'est dans cette situation-là que la bonne nouvelle du salut est annoncée, mais dans une situation qui est tout sauf, on pourrait dire, lumineuse. Et là, je veux citer le début de l'évangile de Jean, hein, qui est connu, hein, tellement il est beau. Chacun peut le lire dans sa Bible. Hein. Voilà, la lumière est venue dans les ténèbres, hein, et les ténèbres ne l'ont pas reçue. Voilà la situation de ce monde. La lumière est venue dans les ténèbres, hein, et les ténèbres ne l'ont pas reçue. Et pourquoi il y a des ténèbres? Voilà, parce que les ténèbres n'ont pas reçu. Et l'évangile de Jean explique, hein, au chapitre 3, pourquoi les ténèbres n'ont pas reçu la lumière, pourquoi les hommes n'ont pas reçu cette lumière, parce que leurs œuvres sont ténèbres. Ce n'est pas parce qu'ils souffrent. C'est parce que leurs œuvres sont ténèbres, hein, et ils craignent de s'approcher devant Dieu. Parce qu'ils s'approchent devant Dieu, il faudra qu'ils mettent genoux à terre. Ils sont prêts à tout sauf à ça. Voilà la raison. Voilà le message biblique. Oui. Et donc, c'est un renversement. Et je pense à ce passage, à ce verset du prophète Jérémie qui dit, alors voilà, on est vraiment dans le renversement, hein, pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il que chacun se plaigne de ses propres péchés? On est dans le renversement, voilà, que j'ai appelé le changement d'optique. Voilà. Tu souffres, peut-être profondément, sans doute. Voilà. Il n'empêche que le problème sur lequel Dieu veut attirer ton regard, c'est le mal que tu fais. C'est le mal qui est en toi. Il voit le mal que tu subis. Il voit le mal que tu ressens. Mais il le voit. Dieu est compatissant. Il est un Dieu compatissant, c'est écrit. Il est un Dieu miséricordieux. Il est un Dieu consolateur. Vous voyez, ces mots, quand même, nous parlent. Il est dit, Dieu essuiera toutes larmes de nos yeux. Chaque larme sera essuyée. C'est magnifique, n'est-ce pas? Mais le souci de Dieu, c'est le mal qui sort de nous, parce que c'est celui-là qui nous empêche de recevoir son amour. Voyez, le mal que je subis, il me fait mal, il peut même me détruire, mais il ne m'empêche pas de recevoir l'amour de Dieu, ce mal-là. Voyez. Mais le mal que je fais m'empêche de recevoir l'amour de Dieu. Donc l'obstacle, il n'est pas dans le mal que je subis, il est dans le mal que je fais. Voilà. Alors, ça, c'est peut-être bousculant ce que je dis là. Hein. Je pense que je restitue le message de l'Écriture. Voilà. Et donc, avec ce renversement, et moi je dis quelquefois, parce que ce dialogue, je l'ai quelquefois avec les patients, hein, quand ils sont en mesure de parler, ce n'est pas toujours le cas. Des fois, ils sont tellement affaiblis que... On n'est pas dans ce genre de réflexion, mais quelquefois oui. Et je leur dis, mais si Dieu n'existe pas, alors d'abord il n'est pas responsable du mal, s'il n'existe pas, c'est comme ça, c'est le chaos, c'est, on se débrouille comme on peut. Mais s'il existe, l'air que vous respirez, il vous le donne chaque instant. Combien de fois vous avez dit merci depuis ce matin? Le mal, il est là. Combien de fois tu as dit merci à Dieu depuis ce matin? Le mal, il est là. Le vrai mal, il est là. Alors on me dirait, oui, mais et tous ces enfants qui sont morts à Bethléem, et tous ces gens qui travaillaient dans les tours à New York, là, qui n'avaient rien demandé, qui faisaient leur travail tranquillement, eh bien, pourquoi ils sont morts comme cela, n'est-ce pas? Voilà. On a posé un jour cette question à Jésus. Ouf. Voilà. Un jour, on a posé cette question à Jésus. Évangile de Luc, vous pourrez le lire chez vous, chapitre 13. Hein? Normalement, il y a au moins 13 chapitres dans votre Bible à Luc. Voilà. Et je vous lis ce passage, hein? C'est quelques lignes. Dans ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens, des gens de Galilée, dont Pilate, gouverneur, avait mêlé le sang à celui de leur sacrifice. C'est dit en une phrase. Donc, il y avait des Juifs de Galilée qui offraient des sacrifices. Pilate, pour je ne sais quelle raison, les a fait massacrer de telle sorte que le sang de ceux qui offraient des sacrifices s'est mêlé au sang de leurs sacrifices. Une circonstance détestable, si vous voulez. Hein. Très, très, très dure, encore une fois, par la méchanceté de quelqu'un. On pose à Jésus la question, et Jésus dit, « Croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres ?» parce qu'ils ont souffert de la sorte? Et Jésus répond, non. Jésus répond, non. C'est pas parce qu'ils étaient plus pécheurs que les autres. Alors il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et voilà ce que dit Jésus, mais vous, si vous ne vous repentez pas, vous périrez de la même manière. Et Jésus dit, voilà, cette question que vous posez, elle est importante, mais dans l'urgence, moi je vous en montre une autre, qui est encore plus importante. Est-ce que le mal que vous faites, le mal dans votre vie qui met obstacle entre Dieu et vous, est-ce que ce mal a trouvé sa résolution? Il faudrait qu'il l'ait trouvé avant qu'il soit trop tard. Jésus dit cela. On vient encore vers Jésus dans la même circonstance et on lui dit, et ces 18 personnes sur lesquelles est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué. Donc c'est un autre cas, c'est un autre drame ça. C'est pas quelqu'un qui a dit on va tuer ces gens, c'est une tour qui s'est effondrée. Donc aujourd'hui, on ferait une enquête qui est responsable, l'architecte, mais il est mort. Alors, c'est pas l'architecte, c'est les services publics de la municipalité. Il faut trouver un coupable qui va payer. Voilà. Bon, mais là, on ne se posait pas ce genre de questions, je suppose. Toujours est-il qu'il y a une tour qui tombe et qui tue 18 personnes. C'est malheureux. C'est ce qu'on appelle un accident ou une catastrophe naturelle. On pose la question à Jésus. Et Jésus dit, croyez-vous que ces gens aient été plus coupables que les autres habitants de Jérusalem? Jésus dit non. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez de la même manière. Et Jésus, donc, qui est là pour annoncer une bonne nouvelle, il annonce une nouvelle terrible. Il dit, si la question du péché n'est pas réglée dans les cœurs, il y a quelque chose que vous n'imaginez pas dans sa gravité qui vous attend. C'est fou, ça. Et donc, Jésus, quelque part, annonce une mauvaise nouvelle. Voilà. En tout cas, il annonce une situation grave. Et dans cette situation grave, Jésus dit en quelque sorte, il y a des questions plus urgentes que d'autres. Alors on peut toujours se demander pourquoi il y a eu un tsunami, pourquoi il y a eu un enfant qui a été écrasé par un camion, et pourquoi il y a un ivrogne qui a renversé une grand-mère. on peut se poser, voilà, ces questions, on peut se les poser, mais peut-être on devrait se les poser quand on a réglé l'autre question qui est plus importante. Est-ce que je peux recevoir l'amour de Dieu? Voilà, pour vivre ce que j'ai à vivre sur cette terre. Hein. Et est-ce que l'obstacle entre Dieu et moi peut être ôté? Cet obstacle, ce n'est pas le mal que je subis, c'est le mal que je fais. C'est le mal qui est inscrit dans mon cœur. C'est le mensonge. C'est l'orgueil. C'est la dissimulation. C'est l'hypocrisie. Voilà. C'est le désordre qui est dans mon cœur. Voilà. C'est le mal principal. Ce que j'appelle le mal principal. Alors, pour essayer de devancer un peu les questions, je dirais, la Bible n'élude pas le mal subi. Hein. Je crois l'avoir dit, je le redis là. Ce que j'appellerais alors le mal secondaire, le mal subi, la Bible ne l'élude pas. Voilà. Le Saint-Esprit est appelé le consolateur. Voilà, Jésus dit, je vous enverrai le consolateur, il sera toujours avec vous. Ça, c'est une promesse. Voilà. Mais ce que j'appelle le mal principal, c'est le mal qui met obstacle entre Dieu et moi. C'est le mal qui est au-dedans de moi. C'est le mal que je fais. Jésus le dit, c'est dans le cœur que se trouve. Hein. Voilà. Jésus disait aux Juifs, c'est pas la peine de vous laver les mains tout le temps, c'est dans le cœur qu'il y a les adultères, hein, les convoitises, hein, le mensonge et le meurtre. Voilà. Le meurtre, oui, si tu dis insensé à ton voisin, tu as déjà du meurtre dans ton cœur. Alors, la Bible, là, se distingue de tous les humanismes qui font de l'homme principalement une victime. Voilà. En un sens, l'homme est une victime, mais ce n'est pas son statut principal. Voilà ce que je dirais là ce soir. Et ça me fait penser que aujourd'hui, les observateurs, les sociologues, notamment dans le milieu du droit, observent un phénomène qu'ils appellent le syndrome de victimisation. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça déjà. Ça veut dire il y a par exemple une catastrophe, un accident. Il peut y en avoir évidemment de toutes sortes, eh bien les victimes s'organisent en association, il y a quelquefois même un permanent qui se met là, n'est-ce pas, et puis ils défendent leurs droits, pourquoi pas, hein, rien de répréhensible. Mais le phénomène qui se développe aujourd'hui, c'est que ces gens-là s'installent dans une identité de victime qu'ils vont garder peut-être jusqu'à la fin de leur vie. Et cette identité devient comme une sorte de prison. Je suis une victime. Alors ça les aide à vivre, hein, et en même temps ça les enferme. Voilà. Ça devient une sorte de pseudo-identité qui les excuse, qui les couvre, qui les protège, qui leur épargne peut-être certains devoirs, etc. Ils sont des victimes. Ils ont subi, ils ont souffert. Ils ne sont pas obligés, comme tous les autres hommes, de faire certaines choses parce qu'ils sont victimes. Ils se posent comme victimes. Et voilà, aujourd'hui, on observe que il faut mettre en place des soins pour soigner ces gens-là qui se sont installés dans ce statut de victimes, qui, au lieu de les aider, les enfoncent quelque part, les empêchent de sortir. Voilà. Et moi, je pense qu'en un sens, le message biblique, c'est une invitation à sortir de cette prison dans laquelle on s'enferme avec le statut de victime. La dépression. Alors, dépression, c'est complexe, hein, et il peut y avoir mille raisons, donc je ne vais pas le simplifier ici, mais la dépression peut être, dans certains cas, je veux dire prudemment, hein, la conséquence de cette attitude de victimisation. Voilà. De plainte de soi-même, qui fait que, ben voilà, ça nous met un peu dans un cocon, ça nous met à l'abri, mais en même temps, ça nous empêche de respirer, ça nous empêche de recevoir la grâce de Dieu, ça nous empêche de voir le chemin qui se trace devant nous. Voilà. Et je pense que le message chrétien est une invitation à sortir de cette prison-là. Voilà. Aucun mal que j'ai pu subir ne m'excuse devant Dieu et ne résout la question de mon péché. Tu as dit, mais j'ai beaucoup souffert, je dois quand même demander pardon à Dieu. Oui, mais j'ai beaucoup souffert et je suis malade et j'ai perdu un enfant. Puis je ne sais pas ce que je vais faire demain, et puis j'ai perdu mon travail. Tu dois quand même demander pardon à Dieu, et tu vas recevoir la paix dans ton cœur. Et avec cette paix, tu vas avancer autrement dans les épreuves de ta vie. Voilà, je crois, le message de l'Évangile, qui ne nous trompe pas, et qui nous indique une voie juste. Voilà. J'appelle ce mal qui est en nous, et que nous faisons, et qui souvent est un esclavage, qui nous fait faire ce qu'on n'aurait pas envie de faire, hein, dit Paul quelque part, j'appelle ce mal le mal principal, pour deux raisons. Chronologiquement, le premier mal sur la terre, chronologiquement, hein, si je lis le récit de la Bible, le récit de la Genèse, le premier mal sur la terre n'est pas une blessure, c'est une transgression. Alors ça, c'est ainsi. Le premier mal qui intervient sur la terre que Dieu a créée, ce n'est pas une blessure subie, c'est une transgression, c'est une désobéissance, c'est une faute. Voilà. Donc, chronologiquement, c'est comme cela. Et en termes de gravité, j'ose le dire, hein, je ne le dis pas légèrement, mais je le dis ici, le mal que je fais est plus grave que le mal que je subis. Dieu voit les deux, mais le mal que je fais est l'obstacle principal pour mon bonheur. Parce que dans le mal que je subis, je peux recevoir le secours de Dieu si mon cœur s'ouvre. Dans le mal que je fais, il n'y a que le pardon. Et le pardon est donné à celui qui demande pardon. Alors, avant de terminer, hein, je n'ai encore pour une minute ou deux, est-ce que la Bible est plutôt un message accablant ou un message libérateur? Je vais poser la question, hein, après ce que je viens d'entendre, ce que je viens de dire plutôt. Et certains peuvent penser, mais finalement la Bible, ben, elle est plus accablante que libératrice, elle ajoute un fardeau de plus, voilà, non seulement j'ai des problèmes, mais en plus je suis pécheur et je devrais m'humilier devant Dieu, voilà. Et moi je pose la question, quand on lit le texte des évangiles, est-ce que Jésus est plus accablant ou libérateur? C'est étonnant. Voilà. Pour répondre honnêtement, je crois que Jésus a été tour à tour accablant et libérateur. Il a eu des paroles très sévères, hein, dans certains cas, et des paroles très apaisantes dans d'autres cas. Est-ce qu'il était lunatique? Est-ce qu'il était changeant? Je ne crois pas. Franchement, c'est pas le genre de... C'est pas ce que le récit nous laisse penser. Mais quelquefois, Jésus a été très dérangeant dans ce qu'il a dit. Très troublant. Et même très dur. Et donc la Bible, à certains égards, est sans... sans compromis et voilà, elle est sévère. Hein. Et en même temps, Jésus a prononcé des paroles d'une douceur magnifique. Hein. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, vous trouverez du repos pour vos âmes. Voilà, je suis le bon berger. Je donne ma vie pour mes brebis. Je connais mes brebis, elles me connaissent. Mais enfin, c'est des versets magnifiques, quoi. Donc on ne peut pas dire qu'il était méchant. On peut dire qu'il voyait tout. C'était dans le cœur de l'homme, que nous ne voyons pas. Il voyait tout, il n'avait aucune illusion. Voilà. Il voyait tout cela, et ses paroles sont conduites par cette réalité-là. Voilà. On pense souvent au mal subi par les innocents, mais dans la Bible, il n'y a pas d'innocents. Voilà. Il y en a un seul qui était innocent, et on l'a mis sur une croix. Je voudrais illustrer... Ce que je crois être la dimension libératrice de l'Évangile et de la Bible dans ce regard qu'elle a, avec un exemple. Un exemple concret, j'espère qu'il ne troublera personne ici, mais comme je ne vous connais pas, j'ai la liberté de donner un exemple comme cela. Imaginez la situation d'un couple en difficulté. Ça arrive, hein. Un couple en difficulté, conflit, menace de séparation, menace de divorce. Le pasteur va voir l'épouse. Elle se plaint de son mari, elle évoque sa souffrance. Le pasteur va voir le mari, il évoque sa souffrance, il se plaint de son épouse. Cet exemple est imaginaire, bien sûr. Voilà. Comment avancer? C'est très difficile. Comment avancer? Je ne vois, voilà, chacun est campé dans sa position, il voit sa souffrance, et il voit dans l'autre le responsable de sa souffrance. Et ses souffrances sont réelles. Je ne vois qu'une manière d'avancer, c'est que l'un des deux fasse un pas en avant, accepte de quitter sa position, fasse un pas en avant, et accepte de voir l'autre et de lui dire « Je te demande pardon parce que je sais que je t'ai fait de la peine. » Et ce n'est pas forcément celui qui aurait fait le plus de mal qui pourrait commencer à dire cela. C'est celui qui a le plus subi, au lieu de s'enfermer dans sa position de victime, il pourrait dire, moi aussi, un jour, je t'ai fait de la peine, je m'en souviens, je le regrette maintenant. J'aurais pas dû. Pardonne-moi, s'il te plaît. Ça, c'est la puissance de l'Évangile. Vous voyez, sorti de la prison de la victimisation. Je te justement te pardonne. C'est pas sûr que l'autre dise, mais je te pardonne et moi aussi je te demande pardon. C'est pas exclu. C'est pas exclu parce qu'il y a une puissance qui se libère à ce moment-là, soit dans les minutes qui suivent, soit dans les heures qui suivent, soit on ne sait pas. Mais l'autre n'est pas obligé, l'autre peut dire, mais je m'en fiche de toi maintenant, c'est trop tard. Il peut dire ça. Il n'empêche, celui qui a fait cela, il a injecté de la grâce dans son cœur. La grâce, ça veut dire de la bonté, ça veut dire de la liberté, ça veut dire de la joie. Il a injecté dans son propre cœur, dans le cœur de l'autre, dans son couple, il a injecté de la grâce et de la lumière. On n'est pas obligé de recevoir la lumière, mais on peut la recevoir. En tout cas, celui qui aura fait ça, il va mieux dormir dans la nuit qui suit, je crois. Même sa situation pas réglée, il va mieux dormir. Parce qu'il a, il a dit, je te demande pardon pour ce que j'ai fait un jour. Je t'ai fait de la peine, je t'ai fait du mal. Voilà. Je crois que je ne vais pas poursuivre trop pour laisser le temps. Hein. Je ne sais pas où j'en suis de l'heure, mais je vais m'arrêter bientôt. La Bible a un regard sans complaisance et un regard salvateur. La Bible est très sévère hein, dans certaines circonstances. Je pense à la tour de Babel, hein, un des événements les plus anciens de l'histoire de l'homme. Des hommes qui se disent, on va se mettre ensemble, on va construire une tour qui va monter jusqu'au ciel. Et Dieu confond le langage des hommes hein, qui ne peuvent plus s'entendre, hein, qui doivent abandonner leur chantier, se disperser, rentrer chacun de leur côté. Voilà un mal que Dieu a occasionné, voyez, pour empêcher un mal plus grand. Mais voilà, Dieu a agi sévèrement. Le déluge. Hein. Une génération détruite par l'eau du déluge, 8 personnes sauvées. Hein. Sodome et Gomorre, une ville détruite par le feu et le soufre, une famille sauvée, pas entière. Et Jésus dit, à la fin des temps, il en sera comme au temps de Noé. Et Jésus dit, ces villes qui n'ont pas reçu l'évangile seront traitées plus rigoureusement que Sodome et Gomorre. Oui. Donc la Bible est sans complaisance. On ne s'arrange pas avec Dieu. On ne s'arrange pas. Et en même temps, la Bible est un message salvateur. Voilà. Pour quiconque s'approche, la Bible dit, il y a une porte ouverte. Voilà. Quelqu'un a payé le prix pour s'avancer. Ce prix si élevé que personne ne pourrait le payer, un innocent est mort à la place sur la croix. Et à la croix se dévoile à la fois la sainteté de Dieu et l'amour de Dieu, le jugement de Dieu et la délivrance. Voilà. Il fallait qu'un homme meure, hein, et si un innocent meurt, les coupables peuvent être revêtus de sa justice et s'approcher de Dieu dans la paix. Et cet innocent, c'est Jésus. Le regard implacable qu'on ne peut pas négocier, c'est cette règle qui dit le salaire du péché, c'est la mort. Mais à la croix, un autre meurt à ma place. Et cet autre est sans péché. Cet autre, c'est aussi le Fils éternel de Dieu qui a pris ma condition pour devenir mon sauveur. Et je trouve bouleversant que la Bible elle-même appelle cela le scandale de la croix. Le scandale de la croix. C'est-à-dire, c'est incompréhensible. Mais c'est l'issue que Dieu lui-même donne, parce que les hommes n'ont pas trouvé d'issue. Et la Bible dit, parce que les hommes, dans leur sagesse, n'ont pas trouvé l'issue à leur situation, ça se saurait, n'est-ce pas? Il a plu à Dieu d'agir de cette manière-là, qui est, au regard de la raison et même de la justice, scandaleuse, que quelqu'un qui est innocent meure à la place de ceux qui méritent de mourir. La Bible appelle cela le scandale de la croix. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, je pense, les musulmans disent que les musulmans qui croient que Jésus était un grand prophète, n'est-ce pas, né d'une vierge, ils disent Dieu n'a pas permis qu'il meure, mais il l'a enlevé et quelqu'un qui lui ressemblait est mort à sa place. Vous voyez, c'est scandaleux. Voilà. Mais nous, chrétiens, quand nous prenons le pain et le vin, nous disons quelqu'un est mort à ma place. Son corps a été brisé, son sang a été versé. Voilà. Et la Bible dit c'est une folie. Mais cette folie de Dieu est plus sage que les hommes. C'est une faiblesse. Et cette faiblesse de Dieu est plus puissante que les hommes. Voilà. Et le oui de la foi permet d'être au bénéfice de cette œuvre qui a été accomplie une fois pour toutes. Je vais m'arrêter là. Voilà. Merci.
Merci infiniment,
Charles.
Je suis sûr que ton exposé a suscité des questions. Ça va être dans quelques instants le moment de les poser, ces questions, d'accord? Vous avez...
La musique, d'abord.
Oui, la musique, bien sûr. Mais vous avez donc tous ces petits feuillets bleus pour y inscrire des questions. Mais si vous préférez les poser à l'oral, vous pourrez le faire, bien sûr. Je vous donnerai la parole dans quelques instants. Il y aura un petit morceau de musique qui va passer pour vous donner le temps, nous donner le temps de réfléchir un peu et puis voilà, peut-être de formuler là ou les questions. Et puis, je voulais aussi attirer votre attention sur ces papiers qui vont être distribués. C'est un... Comment dire ?
Un résumé.
Vas-y.
C'est un résumé. C'est un sur une page, en une dizaine de courts paragraphes de trois lignes, c'est le résumé de ce que j'ai dit. Alors, il ne faut pas forcément l'étudier maintenant, mais en le parcourant, ça peut éventuellement vous aider à rebondir sur un point. D'accord ? C'est le résumé de ce que j'ai dit.
Merci. Donc, il y en a 40, je crois, d'imprimés. On est peut-être un peu plus que 40. Donc, si vous êtes venu à plusieurs, n'hésitez pas à en prendre un pour deux. Si vous êtes venu tout seul, bien sûr, prenez-en un pour vous. Vous pourrez bien sûr le garder après. Hein. Voilà. Donc, je vais passer ça au premier rang, puis ça circulera. Et puis, maintenant, place à la musique et aux questions.
Non,